ce sera peut-être bientôt une réalité. Lâcher le volant, se faire conduire à un endroit déterminé par son véhicule, ce qui était encore de la science-fiction il y a peu, est en train de devenir réalité. Vendredi dernier, le géant californien Google annonçait que les tests sur route de sa Google Car seraient menés dès cet été dans la circulation réelle en Californie. Les entreprises de communication qui investissent massivement dans le secteur, on peut aussi citer la semaine dernière Swisscom qui a fait des tests dans les rues de Zurich avec une voiture autopilotée. Comment s'organise cette nouvelle bataille commerciale aussi sur les véhicules autonomes? Plus largement, vers quel type de société de la mobilité allons-nous? Bonjour Thierry Chanard.
Bonjour.
Vous êtes urbaniste, architecte, vous êtes spécialiste des mobilités innovantes. Vous aviez mis au point, vous aussi, une mobilité individuelle un peu particulière il y a quelques temps. Vous êtes très intéressé par ce sujet. On parlait tout à l'heure de la voiture connectée, de la voiture autonome dans le journal de 7h. Un spécialiste de la question, Zach Canter, c'est son nom, il estime que les voitures autonomes seront devenues communes d'ici 2025, dans 10 ans, et ce sera quasi monopolistique dans 15 ans, en 2030. Est-ce que vous y croyez aussi?
Disons, j'observe cela depuis maintenant une vingtaine d'années. Donc, il y a 20 ans, on disait déjà, ça va inonder les villes dans quelques décennies. Il y en a déjà deux de passés et il y a toujours rien qui inonde ces villes. Donc, je pense que ça va prendre du temps. Si on a envie de développer son propre business en matière de communication, en matière d'automatisation, je peux imaginer qu'il y a des tas de spécialistes qui vont dire ou prédire un univers automatisé très très rapide. Mais pour cela, il y a beaucoup de facteurs qu'il faut dominer. Il faut savoir intégrer ces modes de déplacement automatisés. Et la ville ne s'est pas construite aujourd'hui, elle s'est construite depuis bien longtemps. Et donc, elle ne peut pas bouger dans ses dimensions. Elle doit se réorganiser pour pouvoir accueillir ces modes de mobilité.
Donc, construire une voiture autonome n'est pas tout. Ça peut-être qu'on y arrivera, mais il faut encore adapter tout le reste, c'est ça, hein?
C'est ça. Il faut adapter les réseaux. Il faut adapter le partage de l'espace public pour faire en sorte que nous puissions rouler ensemble. Parce que je dois dire que si vous voulez intégrer ces modes autonomes, il faut aussi faire en sorte qu'ils puissent cohabiter avec des modes traditionnels dans un premier temps.
Oui. Cela dit, lorsqu'on parle de voiture autonome qui se conduit toute seule, on continue de parler de voiture, c'est-à-dire la bonne vieille voiture qu'on connaît tous. Est-ce que c'est ça véritablement l'avenir de la mobilité? Ça reste de la mobilité individuelle au fond. Est-ce que c'est ça l'avenir?
Disons, à partir du moment où la population de notre chère vieille terre pour moitié en tout cas, et a dépassé la moitié, réside en ville, je pense que le problème de la mobilité individuelle doit se réfléchir a priori en ville, et donc se résoudre en ville. Et par là même, eh bien, on doit faire en sorte que les besoins de mobilité soient collectivisés le mieux possible, avec toutes sortes de moyens d'ailleurs. Quand on approche la ville, on peut covoiturer, on peut aussi utiliser bien sûr les transports publics, mais aussi on peut partager l'espace public de manière différente qu'on ne le fait actuellement. Il ne faut pas oublier qu'une voiture de pendulaire, c'est 1,1 personne par trajet et par véhicule.
Et en quoi la voiture autonome peut résoudre cette équation-là, le problème du covoiturage?
Elle ne résoudra pas grand-chose.
Oui.
Elle résoudra un tout petit problème d'encombrement éventuellement, parce qu'évidemment, quand on conduit individuellement sa voiture, on conduit à une distance de sécurité a priori. Si on n'est pas trop chauffard, on est assez loin de la voiture qui précède. Par contre, quand on est dans un véhicule qui a des fonctions d'aide à la conduite et d'automatisation, eh bien à ce moment-là, on peut se rapprocher du véhicule qui nous précède. On peut se tenir à une distance qui est bien réduite.
Donc fini les bouchons avec la voiture autonome, il n'y aura plus d'inforoute?
Pas encore. Je crois que si on covoiture bien, on réduira d'autant plus le nombre de voitures sur le réseau plutôt que de rester en véhicule individualisé.
Mais moi, je vous écoute et je me pose la question. Au fond, elle sert à quoi cette voiture autonome, à part le formidable défi technologique et commercial? Alors certes, elle sera peut-être plus sécure, elle parquera tout seule, elle calculera les itinéraires bis, la distance minimale avec le véhicule qui précède, mais à part ça, elle sert à quoi cette voiture?
Je dirais que c'est la sécurité avant tout, je pense.
Oui.
En tout cas, il me semble que si ça peut réduire le taux d'accident, je pense que ça sera déjà une réussite en soi. Le confort d'utilisation aussi. L'autonomie d'une voiture peut permettre d'avoir un certain stress en moins au volant. Je pense qu'il faut quand même garder les mains sur le volant malgré tout. Mais disons, ça me paraît surtout et essentiellement des questions de confort et de sécurité.
Alors, parlons de la sécurité. Tout cela sera géré par une centrale informatique. Enfin, il y a déjà des ordinateurs dans nos voitures, mais là, ça calculera tout. On sait que l'informatique n'est pas exempte de bugs, parfois, ni même, j'allais dire, de connexions un petit peu involontaires. La sécurité, vraiment, est-ce que ce sera des ordinateurs infaillibles? Il n'y aura jamais de panne, jamais de bugs? Qui peut le prédire, qui peut l'assurer, ça?
Quand on parle d'automatisation, on parle de redondance. Hein. C'est comme un peu l'Airbus. Quand vous avez un système qui défaille, vous en avez un autre qui prend le relais et qui assure la sécurité même en mode dégradé, comme on dit dans les milieux de la recherche. Et donc, ce système de redondance permet justement d'assurer quand même une certaine robustesse.
Donc si le premier système tombe en panne, il y a toujours un deuxième qui prend le relais, c'est ça?
A priori, c'est cela, oui.
Ouais, ouais. Et puis alors la sécurité dont je parlais, qui est celle au fond de la vie privée, de la voiture connectée, ça peut fragiliser aussi notre vie privée. Tout le monde saura où on est tout le temps, partout et en temps réel. On peut déjà le voir avec un GPS, là ce sera quasiment impossible de circuler incognito, non?
On peut déjà se poser la question avec le cloud. Hein.
Oui, ouais, bien sûr.
Donc je ne sais pas si c'est vraiment un problème lié à l'automatisation de la voiture. Je pense qu'effectivement il y a des risques du fait qu'on puisse hacker des voitures à distance. Comme
c'était plutôt
tout
ça
à
dont je parlais, effectivement on hack un grand nombre un parc de véhicules qui peut être hacké comme ça d'un coup.
Il faudrait faire en sorte que, évidemment, des systèmes de sécurité suivent l'évolution de ces technologies. Alors là, bon, je crois que les technologues sont suffisamment pointus pour pouvoir le faire. Maintenant, après, il y a des problèmes de législation. Chaque fois qu'on est dans la recherche et le développement, on essaye d'enlever petit à petit les différentes barrières au déploiement, comme on les appelle, faire en sorte que justement on décloisonne certains pans qui permettront d'aller un tout petit peu plus loin. C'est pour ça que les choses ne vont pas si vite. Quand on prédit une accélération de l'automatisation, quand vous voyez l'ensemble des... C'est un parcours de haie, hein, l'ensemble des obstacles que nous devons franchir pour faire en sorte qu'une innovation tienne la route, je pense que... Il y a encore un peu de pain sur la planche et du temps à s'écouler.
Donc c'est pas 2025 ni même 2030, c'est même beaucoup plus tard. Hein.
Bah, disons, on peut imaginer déjà des véhicules parfaitement autonomes. Il y en a qui roulent en ce moment même à l'EPFL. On a mis en place une expérimentation dans le cadre d'un projet européen. Il y a 6 véhicules autonomes qui circulent dans le campus. Mais ils circulent dans des conditions spécifiques. On a essayé de résoudre ce qu'on appelle les zones de conflit lorsque des véhicules autonomes croisent des véhicules conduits par des êtres humains. Donc voilà, on essaye de faire cohabiter les modes, comme on dit. Mais tout cela doit s'observer. Et puis avec toutes ces batteries de tests, on va tirer des conséquences. On va essayer de donner des recommandations aussi du point de vue juridique. On va essayer d'harmoniser aussi les lois du point de vue européen.
Oui, du point de vue juridique, vous soulignez ce point, Thierry Chanard. Qui est responsable en cas d'accident d'une voiture autonome?
Oula. Alors, j'avais entendu un cas qui était en 2002 ou 2003, parce que les véhicules automatiques circulent depuis un certain temps en Europe, et notamment c'était en Hollande, autour de l'aéroport de Schiphol. Et il y avait un véhicule autonome qui était rentré dans une voiture qui était mal garée. Et s'était posé la question de la responsabilité. Et finalement, après une bataille juridique assez intense, c'était la personne qui avait, et propriétaire du véhicule qui était mal garé, qui dépassait un petit peu de sa case, qui était pas visible dans le champ d'action du laser du véhicule autonome, qui était responsable.
Parce qu'au fond, on pourrait dire que c'est le concepteur du logiciel qui est responsable, la voiture autonome qui ferait un accident, on peut aller jusque-là. Non, mais ça pose tout un tas de questions qui ne sont pas résolues d'ailleurs. Hein.
Non, pas du tout. C'est pour ça que nous devons observer les problèmes sur le terrain pour voir comment on peut aborder ces différents sujets avec les dispositions juridiques qui existent et comment on peut les faire évoluer dans le sens d'une cohabitation qui soit sereine, je dirais.
Vous êtes urbaniste, vous êtes spécialiste des questions de mobilité. Si on prend des villes comme Lausanne ou Genève dans 15 ans ou 20 ans, vous avez certainement déjà dû plancher sur ces scénarios, à part les transports publics, hein, mais elles vont ressembler à quoi? Il y aura un peu de voitures autonomes, des voitures toujours conduites par des gens, plus de vélos, plus de deux roues. Dessinez-nous ce paysage-là dans 15 ans, Thierry Chanard. Si vous le pouvez.
Quand j'étais petit, je rêvais de voitures volantes en forme de bulle.
Ça existait dans les films de science-fiction, effectivement.
Voilà. Ouais. Maintenant, on est un petit peu plus réaliste, et puis on se rend compte que la Terre évolue doucement, quand même, malgré tout, même si on a des sauts technologiques importants. nous avons une histoire qui est construite, qui est bâtie dans tous les sens du terme. Et celle-là, je crois qu'on ne peut pas l'effacer. On peut la renouveler, par contre. Maintenant qu'il y ait des véhicules autonomes, des petits véhicules urbains qui circulent en ville, je pense qu'on pourra en imaginer dans un premier temps, dans certains tronçons spécifiques. Je pense que aujourd'hui nous sommes à même, surtout quand on fait des grandes opérations de rénovation urbaine, d'intégrer ces systèmes qui sont comparables à des ascenseurs, mais qu'on met à l'horizontale, des ascenseurs automatiques, qui nous permettraient de nous relier d'un nouveau quartier à un réseau de transport public. Là, on peut imaginer tout de suite des outils de ce type qui soient opérationnels. Maintenant, de là à généraliser des véhicules complètement autonomes dans un réseau urbain banalisé, et en particulier sur le domaine public, c'est vraiment très compliqué. Il y a énormément de pas à franchir.
Alors, on parle beaucoup d'Uber ces derniers temps. Uber qui effraie tous les chauffeurs de taxi du monde. Uber, lui-même, planche sur la voiture autonome pour ses propres services. Vous y croyez? Ce sera faisable, ça? Des services de taxi sans conducteur qui viendront chercher les gens à la maison et les amener là où ils veulent?
C'est, je dirais, un pari. C'est un pari peut-être de gens qui ont regardé Total Recall en 1984, je crois. C'était Johnny Cab, le taxi automatique qui emmenait Arnold Schwarzenegger dans les rues.
Mon Dieu, oui.
D'une vision futuriste de la ville. Bon, vous voyez, c'était en 84. Maintenant, bon, on commence à parler de taxi automatique. Je pense que ces taxis n'ont d'intérêt qu'à partir du moment où ils sont intégrés dans une offre de transport public.
Oui.
Voilà. Alors à partir du moment où c'est une offre qui vient se rajouter de manière privée aux offres publiques qui sont offertes par la ville, je trouve que ça n'a pas énormément d'intérêt.
Mais en fait, si Uber s'engouffre dans la brèche, et son patron Travis Kalanick le dit, il veut à terme se passer de chauffeur, si Google s'engouffre dans la brèche, etc., et d'autres sociétés, c'est pas pour rien. C'est pas le type de société qui va prendre des risques majeurs. Enfin, ils en prennent beaucoup, mais sur ce terrain-là, s'ils y vont, c'est qu'ils doivent être convaincus, non? Je vous pose la question comme ça, mais c'est quasiment sûr, non?
Ah oui, non, mais bien sûr, mais on doit travailler avec des gens comme ça. Vous savez, quand on a commencé à travailler il y a une vingtaine d'années sur des transports innovants, on cherchait des sponsors et on se disait, mais quelle est la source de sponsoring qu'on peut imaginer? On avait parlé d'abord des transporteurs et des industriels du déplacement. On avait pensé aux fournisseurs d'énergie, évidemment. Et puis ensuite, on s'est dit, tiens, les télécoms. Et c'était les derniers auxquels nous avions pensé. Et finalement, je pense qu'il faut quand même commencer par les transporteurs et les industriels du transport pour faire en sorte qu'on soit dans la bonne veine du déplacement, c'est-à-dire un déplacement partagé. Que l'on intègre des technologies qui sont développées par des gens de la télécommunication dans des transports publics ensuite, ça sera un plus, indéniablement.
Mais donc un service de bus autonome qui se conduit tout seul à Genève ou Lausanne dans 15 ou 20 ans continuera d'être financé par les pouvoirs publics comme le sont en partie les TPG, les transports lausannois. Ce sera toujours ce mode-là de financement, selon vous?
C'est difficile à dire comme ça, je peux pas le prédire.
Oui.
Ça dépendra beaucoup de l'intérêt que les autorités auront pour le déploiement de ce genre de véhicules. Je pense que c'est important d'ailleurs à ce stade de faire en sorte que nous soyons exemplaires et que nous puissions offrir un terrain de jeu à ces différents modes et à ces différentes expérimentations. Donc faire en sorte aussi qu'on puisse accueillir dans le terrain à échelle grandeur de la ville des transports autonomes pour voir justement et observer comment ils se comportent. À titre d'exemple, l'année passée, nous avons engagé une expérimentation qui était quasiment une première mondiale, c'est-à-dire qu'on a mis des véhicules complètement autonomes sur un réseau banalisé. On avait pris le parti, c'était dans la banlieue de Strasbourg, on avait pris le parti de modérer la vitesse à 30 km/h. Eh bien, on s'est rendu compte que toutes nos batteries préliminaires de tests de sécurité ont été un échec, compte tenu du fait que, à chaque fois, les automobilistes ne se comportaient pas comme ils auraient dû le faire. Et donc, à chaque fois, notre robot détectait un obstacle inopiné qui arrivait à 80 km/h sur un giratoire. Donc, il passait son temps à s'arrêter, à redémarrer. Procédure d'arrêt d'urgence, donc inexploitable en l'état.
Oui, on dit souvent que le principal problème en voiture se situe entre le volant et le siège, hein. à savoir le conducteur lui-même.
Oui, oui, bien sûr.
Ça continuera d'être le cas.
Il y a tout un apprentissage, une sensibilisation à faire.
Ouais. Cela dit, Thierry Chanard, le marché des voitures autonomes s'annonce assez gigantesque. Alors on sait que on a des sociétés comme Google et même Tesla, la fameuse société californienne Elon Musk, qui fait du spatial, qui fait des voitures électriques, etc., va se lancer là-dedans, se lance déjà là-dedans. Mais on voit aussi que des grands constructeurs traditionnels comme Ford, Mercedes et Volkswagen et même Nissan planchent là-dessus. Qui va gagner le marché, selon vous, entre les constructeurs traditionnels et les sociétés technologiques de la Silicon Valley?
Alors, je pencherai assez naturellement vers les sociétés technologiques de la Silicon Valley. Je trouve que la démarche de Tesla est vraiment exemplaire.
Parce qu'en plus, c'est des voitures comme on appelle plug-in, hein, qui se connectent la c'est nuit, ça. Qui se rechargent et qui en même temps font des mises à jour pendant qu'elles se rechargent.
Hein,
ils travaillent là-dessus. C'est des vrais ordinateurs ambulants, ça.
Vous vous couchez un soir, vous réveillez avec 20 chevaux de plus le lendemain matin.
c'est fantastique. Enfin, en tout cas pour ceux qui aiment avoir de la puissance sous le pied. Mais Tesla peut, en l'occurrence, emporter le marché parce que ils savent faire des voitures, contrairement à Google qui sait faire des logiciels surtout.
Musk est vraiment quelqu'un de très visionnaire. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir ses activités, j'allais dire, hors Tesla pour montrer qu'il a l'esprit dans les étoiles et il va beaucoup plus loin que simplement mettre en place une voiture électrique qui a été conçue pour son mode de propulsion, je le rappelle, alors que les autres industries de l'automobile viennent d'une automobile beaucoup plus classique qu'il faut adapter. Vous imaginez des chaînes de production industrielle qu'il faut amener petit à petit au tout électrique. Toyota s'est lancé dans l'hybridation il y a bien longtemps. Maintenant, les autres industriels de l'automobile se penchent, sortent d'ailleurs des véhicules hybrides assez couramment, mais se penchent beaucoup plus maintenant en direction de la voiture électrique. Ça fait 20 ans qu'on annonce ça. Je me rappelle en 1995, Renault fanfaronnait autour de ses Clio électriques. C'était l'avenir, etc. Bon, c'était il y a 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé depuis?
Et il s'est passé beaucoup de choses, mais c'est pas Renault qui a emporté le marché. Thierry Chanard, urbaniste spécialiste des mobilités innovantes, vous êtes avec nous. On parlait d'énergie, de la difficulté, Patrick Chaboudet, d'implanter des parcs éoliens en Suisse indirectement. On parle du même sujet là.
Ben oui, nouvel exemple avec le cas de Berne où une motion du parlementaire UDC Andreas Buren a eu plus de succès que prévu. Il ne souhaite pas que l'on définisse déjà précisément un lieu pour implanter un parc éolien. Pas de décision définitive avant 2020, dit-il. Un endroit proche de Guggisberg avait été désigné, mais il y a eu contestation et du coup, retour à la case départ ou presque. Et cela démontre bien, nous dit le quotidien, l'influence croissante que prennent les politiques dans ce domaine.
On fabrique comment l'électricité pour tous ces véhicules connectés, Thierry Chanard?
On essaye avec du renouvelable, hein, bien sûr. On ne peut pas accuser la voiture électrique d'être d'un seul coup la source d'une surconsommation d'énergie fossile qui va générer beaucoup de difficultés. Je pense que avant qu'elle se déploie, on aura aussi déployé des modes de fourniture d'énergie propre.
Mais si tout le monde se met à la voiture électrique aujourd'hui en Suisse, dans 10 ans, il faudra construire de nouvelles centrales nucléaires. On n'aura pas le choix.
C'est un peu ce qu'on entend. Mais disons, avant qu'elle se développe et qu'elle se généralise à ce point-là, je crois qu'il va se passer encore un certain temps. Donc, laissons un peu du temps au temps, comme on dit, c'est-à-dire les nouvelles technologies doivent se développer. On doit développer des parcs éoliens, on doit développer le photovoltaïque. Je vois que maintenant, les panneaux photovoltaïques qu'on a l'habitude de mettre sur les cinquièmes façades, c'est-à-dire sur les toitures plates ou en pente d'ailleurs, mais se déploie maintenant sur les façades. Donc c'est intéressant de voir qu'on peut habiller un bâtiment qu'on renouvelle avec du photovoltaïque.
Et certains architectes ou gardiens du patrimoine s'en portent la contre, disent qu'il y a certains bâtiments auxquels il ne faut pas toucher, il ne faut pas mettre des cellules sur ces bâtiments-là. Vous pouvez, en tant qu'architecte, comprendre ces réticences patrimoniales?
Bien sûr. Je crois qu'il faut trouver l'intégration, les conditions d'intégration de ces nouvelles technologies. On ne peut pas s'amuser à défigurer notre patrimoine simplement parce qu'on doit produire de l'énergie propre. On n'est pas obligé de produire du photovoltaïque sur sa propre maison pour son propre besoin. On peut délocaliser cette énergie. Donc à partir de là, je ne vois pas pourquoi on doit dénaturer un patrimoine simplement parce qu'on veut mettre des sacro-saints panneaux photovoltaïques sur le toit.
Et les éoliennes, là, comment voyez-vous ce débat qui commence déjà à être un vieux débat depuis plusieurs années, 5 ou 10 ans? Faut-il défigurer ou non des crêtes? Sont-elles, oui ou non, défigurées ces crêtes par la simple présence d'éoliennes? À cette question, que répondez-vous?
Bon, une éolienne, esthétiquement, je trouve ça assez beau. Maintenant, un parc éolien, c'est vrai que c'est impactant dans un paysage. Je peux très bien comprendre que ça peut gêner des gens qui ont l'habitude de se balader et de profiter d'un paysage. Un parc éolien peut se démonter. Oui. Donc, c'est pas une installation définitive. Et en cela, je trouve que c'est aussi intéressant parce que les technologies évoluant, je pense aussi que leur impact diminuera, le rendement augmentera. Donc, on n'aura pas forcément besoin de forêts d'éoliennes pour pouvoir assurer une certaine capacité de production.
On continue avec la lecture de la presse alémanique. Patrick Chaboudet, la NZZ, qui se penche ce matin sur les... Alors, on quitte le domaine de l'énergie, mais plutôt celui des langues. Ce matin, sur les universités romandes et leur anglophonie.
Ben oui, c'est que l'anglais est de plus en plus utilisé dans les amphithéâtres universitaires romands. Alors à l'EPFL, assez logiquement, dans les disciplines scientifiques, mais aussi désormais dans les humanités et les sciences sociales. Alors c'est plutôt bien accepté, nous dit la NZZ, mais il y a tout de même des résistances, avec un cas d'école cité par Le Quotidien, celui du professeur d'anthropologie Mark Goodale, un Américain engagé récemment par l'UNIL et qui donne ses cours en anglais. Les critiques parlent d'un risque d'hégémonie du modèle scientifique anglo-saxon. À lire également dans la NZZ, de l'interview du spécialiste des langues, François Grin, plutôt sceptique, lui, à l'égard de cette manie de l'anglais. Elle est souvent, dit-il, naïve, obséquieuse et provinciale.
Voilà, donc là, on quitte le terrain de l'énergie pour venir sur celui des langues. Vous êtes universitaire, Thierry Chanard. Est-ce qu'un prof à l'Université de Lausanne qui n'enseigne qu'en anglais vous pose problème?
Moi, je suis assez gaulois. Hein. Donc, j'ai fait pas mal de latin. Je trouve que la langue est belle et riche. Donc j'entendais l'intervention de Jacques Alamand tout à l'heure.
Oui, c'était signature, le commentaire à 6h55.
Ouais. Oui, justement, et je trouve qu'il ne faut pas oublier ses racines. Et à partir du moment où on enseigne quelque part, je crois que le quelque part est important, il ne faut pas l'oublier.
Oui, les trois quarts des profs à l'EPFL enseignent en anglais. Hein.
Oui, je sais bien, je le regrette. Quand moi j'étais à l'EPFL, ils enseignaient en français, et puis ça a changé. Depuis, je le regrette personnellement.
Ouais. Ouais, mais c'est un combat un peu identitaire, non? Un perdu d'avance?
Non, je ne crois pas, mais je pense qu'on apprend beaucoup de choses à travers les langues et à travers les façons de comprendre aussi les choses. L'universalité de l'anglais est pratique, mais en revanche, quand vous êtes dans les projets européens et que vous échangez avec un Italien, un Espagnol, dans un anglais approximatif, parfois vous aimez bien vous récupérer dans votre propre langue pour être un tout petit peu plus précis dans ce que vous voulez dire.
Voilà, témoignage vécu de l'intérieur. La question maintenant s'adresse à l'urbaniste que vous êtes, alors Georges Pope, c'est dans 24 heures. Quelle place pour la prostitution dans une ville, en l'occurrence la ville de Lausanne? C'est la une de 24 heures.
Oui, 24 heures qui écrit que c'est un mal nécessaire, mais que cela pourrait devenir un mal tout court dans la capitale vaudoise. Plusieurs lieux de prostitution ont déjà été fermés à la rue de Genève. Dans le quartier de Sévelin-Sébeillon, le périmètre de tolérance pourrait se réduire encore. Des projets immobiliers sont en cours. 1800 habitants devraient s'y installer. Le périmètre de la prostitution devrait donc encore se réduire. Cela inquiète les travailleuses du sexe. Les habitants s'en mêlent. Dans certains quartiers, les habitants font signer des pétitions. D'autres estiment que cela fait partie de la diversité. Le débat se politise. Les Verts proposent la création d'une zone urbaine sécurisée où les prostituées pourraient travailler dans des conditions décentes. Le débat commence.
Que dit l'urbaniste sur cette question qui est quand même tout à fait centrale? Et là aussi, c'est un débat qui n'est pas neuf. Hein.
Un sujet qui titille les trompes de stache, c'est sûr. Mais voilà, donc la vie nocturne, c'est une vie qui trépide, qui fait du bruit, qui cohabite mal avec des riverains. Il ne s'agit pas simplement de la prostitution, le sujet est beaucoup plus large que ça. Ce que je trouve intéressant, moi, dans l'évolution de la ville, c'est de voir qu'il y a des quartiers qui se renouvellent progressivement. Il y a des cycles de renouvellement. Et ces quartiers-là, quand ils sont un petit peu désuets, se font réapproprier par un certain nombre de classes de population, de types de population, des artistes notamment. Ça peut être ce genre d'activité nocturne aussi qui viennent s'y implanter. Ça cohabite avec plus ou moins de bonheur. Moi, je crois qu'il faut laisser cette vie nocturne se mettre en place, laisser faire en sorte que cette cohabitation puisse avoir lieu dans les meilleures conditions d'hygiène possibles, bien sûr.
Évidemment. Merci beaucoup, Thierry Chanard. Vous êtes architecte urbaniste spécialiste des mobilités innovantes. Bonne journée.
Bonne journée à vous.